Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
C'est une troisième semaine avec, pour intervenant au micro, c'est une grande joie pour moi et je l'espère aussi pour vous, chers auditeurs, où je reçois frère Sylvain de Toc Dominicain. Bonjour frère Sylvain.
Bonjour Nathalie, merci.
Alors, je rappelle que vous êtes auteur de quelques ouvrages, dont deux qui sont parus très récemment, en 2022 et 2023. En 2022, vous écrivez « La gloire des bons en rien ». Et ce fut un grand succès. Et je conseille cet ouvrage. Et ce dernier, Déjà brille les lumières de la fête. Ces deux livres sont parus aux éditions du Cerf. Avec vous, on fait la fête depuis 3 semaines.
On fait la fête et on assume.
Et vous assumez aussi ce temps de la semaine, aussi de l'octave.
Je crois,
où
Nathalie,
nous continuons à faire la fête après Noël.
On aurait tort de ne pas assumer ce discours festif au lendemain de Noël, où la liturgie de l'Église nous invite à déployer pendant 8 jours, s'il vous plaît, la fête de Noël. C'est parce que l'idée, c'est comme pour Pâques, la célébration de notre salut en Jésus, hein, Jésus dans la crèche, Jésus mort et ressuscité. Cette célébration, elle est trop débordante de joie, trop grande pour qu'on puisse le faire en 24 heures seulement. Donc l'idée, c'est qu'on dilate sur 8 jours. Hein? Et nos auditeurs seront peut-être heureux d'apprendre que le 8e jour de l'octave de Noël, c'est le 1er janvier, donc dans la tête de tout le monde, c'est le nouvel an, on fait la fête, hein? C'est bien, pourquoi pas, mais pour nous, chrétiens, c'est aussi d'abord le jour de la solennité, la fête solennelle de Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. On achève l'octave de Noël par la célébration de la maternité divine de Marie. Donc nous, on a plusieurs raisons de faire la fête. Plutôt 2 fois qu'une le 1er janvier, et entre le 25 décembre et le 1er janvier, dans l'octave de Noël, il y a ce phénomène qu'il n'y a pas dans l'octave de Pâques, c'est qu'on glisse aussi d'autres fêtes. Hein? Et donc, en quelque sorte, on va de fête en fête.
Eh oui, hein? Eh oui,
on célèbre Saint-Étienne, on célèbre l'apôtre et l'évangéliste Saint-Jean, on célèbre aussi les saints innocents, on célèbre le pape Sylvestre. Il va être dans l'ombre le 31 décembre de cette année 2023 parce que ça tombe un dimanche et que ce sera une autre grande joie, une autre grande célébration, la fête de la Sainte Famille, le dimanche de la Sainte Famille.
C'est beaucoup de fêtes. Hein?
Oui,
quand vous nommez aussi Saint-Étienne, qui fut le premier martyr, Saint-Étienne arrive et vous, juste après cette grande fête et belle fête de Noël.
Alors là, vous mettez le doigt sur une peau de banane du prédicateur. Hein, il faut faire attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis. C'est que immédiatement après Noël, le 26 décembre, hein, alors qu'on est dans la joie de Noël et le déploiement de l'octave, on fête le premier martyr. On est en rouge. Et on n'est plus dans la dorure ou le blanc de Noël. On est en rouge
là,
dans la liturgie.
Vous parlez des vêtements aussi liturgiques.
Oui, hein. Les vêtements que portent les prêtres ou dont on revêt aussi l'autel, le lambon pour la lecture de l'évangile, etc. Hein. On célèbre celui que les Grecs appellent le proto-martyr. C'est-à-dire le premier de tous les amis du Christ à avoir été assassiné, à avoir donné sa vie pour témoigner de sa foi en Jésus. C'est pas gai hein, comme sujet, on en a évidemment bien conscience, et pourtant, le calendrier liturgique glisse la fête de Saint-Étienne à ce moment-là. Et puis, il va y avoir un autre ricochet, même 2 autres en quelque sorte, ricochets en rouge dans cette liturgie. Hein. Ce sont Saint-Jean l'évangéliste juste après, dont la tradition nous dit qu'il a été martyrisé, hein, en tout cas bien malmené à la fin de sa vie, et puis les saints innocents le 28 décembre. Les saints innocents, on dit Étienne est le proto-martyr, le premier des martyrs, mais on pourrait presque dire que les saints innocents sont les proto-martyrs, hein, les tout premiers à donner leur vie à cause de Jésus, à verser leur sang à cause de Jésus et de la folie d'un roitelet qui s'appelle Hérode. Alors, vous allez me dire, mais tout ça, c'est plus l'esprit de la fête. C'est drôlement inquiétant. Hein. Ce sont les ténèbres du péché et de la mort qui, tout à coup, la ressurgissent avec l'histoire d'Hérode, avec l'histoire d'Étienne. Hein. Mais c'est la réalité de ce que nous vivons, de ce qu'est notre monde ensanglanté. Inutile d'éplucher l'actualité, elle est suffisamment douloureuse depuis maintenant de nombreuses semaines et même de nombreux mois. C'est la réalité des guerres, des attentats, et puis aussi des catastrophes naturelles, des épidémies, etc. La joie de Noël, n'évacue pas ce qui ne va pas. Et si on imagine que faire la fête parce qu'on est chrétien, c'est comme une manière d'oublier, de faire l'autruche, vous voyez, hein, d'engloutir sa tête dans le sol, dans le trou de la fête, hein, se lâcher, s'oublier, parce qu'on va faire la fête à plusieurs. Non, c'est pas ça. La joie de Noël, bien sûr, il y a la fête de Noël et son déploiement, mais jamais en christianisme, la joie du salut n'évacue ce qui ne va pas, elle ne l'évacue pas, elle l'assume, elle l'enveloppe.
C'est intéressant de relire avec vous ce temps de l'octave et cette période que nous venons de vivre, en cette période du temps de l'Avent. Combien on entre dans cette célébration de l'accueil de la vie avec Noël et combien nous entrons aussi dans cette réalité de la vocation, en fait, du chrétien, d'un baptisé, sa vocation d'être témoin jusqu'au martyr. C'est tout l'appel.
Oui, on a parlé à plusieurs reprises d'un commandement de la joie et de la fête. Mais comment est-ce qu'on peut obéir à ce commandement, manifester la joie et la fête, alors que ça va si mal autour de nous? Hein, et peut-être même chez nous, en nous, dans nos cœurs, pourquoi pas, hein. Tout le monde n'est pas en pleine forme. La vie, ce n'est pas une publicité pour les vitamines du petit déjeuner. Hein. Ce n'est pas le soleil vient de se lever, on est heureux de se retrouver, etc. Hein, si vous voyez venir. Hein. Non, bien sûr qu'il y a beaucoup de difficultés en ce temps des fêtes de fin d'année. Les chrétiens n'aiment pas beaucoup, ils ont raison qu'on
Alors,
parle
oui,
des fêtes de fin d'année.
Fin d'année, puis cette fameuse soirée, permettez-moi, les parents qui vous écoutent sont à quelques jours de cette fête du Nouvel An qui peut, inquiéter un bon nombre de
oui.
parents avec des débordements pour cette soirée du Nouvel An. Que leur dire
ce réalisme que c'était ce que j'étais en train de vous dire, vous voyez, manifester la joie de ces fêtes de la nativité. Chers amis, vous remplacez les fêtes de fin d'année par les fêtes de la nativité. Hein, l'octave de Noël déploie la fête de la nativité en plusieurs fêtes, la Sainte Famille, Marie-Mère de Dieu, etc. Hein. Mais déployer la joie des fêtes de la nativité, et puis c'est pareil dans nos familles, on se retrouve le 24 décembre au soir, éventuellement le 25 à midi, mais ça marche pas toujours, il y a les calendriers des uns et des autres, il faut parfois batailler avec les beaux-parents, la belle-mère, etc. Parce que chacun, évidemment, veut avoir ses enfants et ses petits-enfants à sa table dans ces fêtes de la nativité. Et donc, c'est pas possible de faire plaisir à tout le monde. Alors, on déploie la fête aussi dans nos familles et il arrive qu'il y ait beaucoup de contrariétés dans ces moments-là. Des contrariétés aussi parce qu'on va accueillir sous son toit des enfants, des petits-enfants qui parfois ont fait des choix de vie diamétralement opposés des nôtres. Des choix de vie qui sont très douloureux pour nous, hein, au point de vue conjugal, au point de vue moral même parfois, au point de vue professionnel, c'est peut-être moins embarrassant, hein, mais même au point de vue religieux, la banalité de ce que beaucoup parmi nous vivent dans nos familles, des enfants qui ont cessé d'aller à l'église, donc des petits-enfants qui, par ricochet, ne sont pas baptisés, découvrent peut-être une autre religion, s'y intéressent, voire l'embrassent, cette religion-là, c'est très très douloureux pour des parents ou des grands-parents chrétiens. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je crois justement que la pédagogie de l'octave de Noël et de ses fêtes, où on n'évacue pas ce qui est douloureux, ce qui même saigne, hein, ce qui est sanglant, comme dans l'histoire d'Étienne ou des saints innocents, on ne l'évacue pas, on l'enveloppe avec beaucoup d'amour, dans la foi surnaturelle qui nous guide, qui nous conduit, on l'enveloppe, on décide de faire ce choix héroïque, je crois qu'il est héroïque pour plusieurs d'entre nous, de continuer d'envelopper les personnes que nous accueillons sous notre toit, ou que d'ailleurs nous n'accueillons pas parce qu'elles ne veulent plus y venir, les continuer de les envelopper dans notre affection, dans notre tendresse, dans cet amour qui n'est pas que le nôtre, qui est soulevé par un amour plus grand que le nôtre, un amour qui vient d'au-delà de nous. C'est l'amour de Dieu pour tous ses enfants. Et je crois que si on perd de vue ça, effectivement, nos fêtes de la nativité, elles peuvent devenir particulièrement amères parce que c'est vrai que l'un des tout premiers lieux de difficulté, de combat au point de vue affectif, au point de vue relationnel, c'est notre propre famille, notre propre communauté aussi.
Vous relevez aussi, au fond, la miséricorde infinie du bon Dieu.
C'est toujours l'occasion de manifester cette miséricorde. Bien sûr qu'on est bien d'accord, hein, comme chrétien, on ne va pas abdiquer la foi et les valeurs que la foi nous fait porter, les valeurs qui fleurissent sous la lumière de la foi. Je pense par exemple aux valeurs de la vie morale aussi. Voilà, les enfants, les petits-enfants peuvent faire des choix qu'on ne cautionne pas au point de vue moral. Hein. Mais,
c'est important ce que vous dites, mais oui, hein, mais très très important.
C'est fondamental. Hein. L'Église a toujours enseigné.
Parce qu'aujourd'hui, frère Sylvain, beaucoup de parents, même de grands-parents, souffrent des orientations prises par les enfants ou les petits-enfants et ne comprennent pas toujours. Il peut y avoir de l'aigreur, une non-compréhension et puis au fond, en finalité, un non-accueil, une sévérité, une rigidité.
Hein, un cœur à vif, en tout cas.
Hein, oui, un cœur qui a mal, qui ne comprend pas.
Et qui ne comprend
mais que
pas.
Dit le bon Dieu à tous ces parents et grands-parents qui sont peut-être aujourd'hui en souffrance
Jésus.
Devant leurs propres jeunes.
Regardez Jésus. Jésus, il ne cautionne pas les voleurs, les voyous, et pourtant, il enveloppe de sa bonté Lévi, Zachée, le publicain. Jésus, il ne cautionne pas l'immoralité, hein, et pourtant, il enveloppe de sa bonté, de sa tendresse, la femme pécheresse qui verse du parfum et qui verse ses larmes sur ses pieds, chez Simon le pharisien. Il enveloppe de sa bonté Marie de Magdala. Elle en est tellement retournée, la pauvre Marie de Magdala, qu'elle va devenir le premier apôtre de la résurrection. C'est quand même pas banal que la première femme à porter la nouvelle de notre salut accompli en Jésus mort et ressuscité, c'est une courtisane, pour ne pas dire, comme certains le disent, une prostituée. Hein, c'est quand même pas rien. Les publicains, les voyous, les voleurs et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils vont y prendre notre place, rassurez-vous. Ça veut dire que ceux que nous pensions être perdus, eh bien nous allons voir dans le royaume qu'ils sont là, que Dieu ne les a pas abandonnés, qu'il leur a donné tous les trésors de sa miséricorde pour que ces gens-là ne soient pas rendus incapables d'accueillir son salut. Et ça, c'est notre immense espérance. Alors, nos petits-enfants, nos enfants font des choix douloureux peut-être pour nous. Hein. Quand je dis nous, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, peut-être en particulier aujourd'hui dans ces émissions des Clés pour grandir. Mais il ne faut pas perdre de vue que Jésus, sans être d'accord avec des actes, est capable de continuer d'aimer et d'envelopper de sa miséricorde des personnes. C'est vraiment le béaba de la morale chrétienne, c'est peut-être le moment de s'en souvenir. C'est une bonne décision à prendre pour entrer dans la nouvelle année, hein. Une bonne résolution, comme on dit. Ben, l'une des bonnes résolutions, c'est peut-être d'arrêter de bloquer ensemble, hein, des actes, des situations. Et d'autre part, des personnes. Continuons d'aimer, d'accompagner de notre tendresse, de notre miséricorde les personnes. Ça ne signifie pas qu'on approuve les actes. Ça, c'est vraiment une distinction fondamentale en christianisme. Alors, vous voyez, ça peut passer, Nathalie, par quelque chose de tout bête. Hein. Le nouvel an, c'est l'occasion aussi d'aller dire aux personnes que nous aimons « Bonne année, bonne santé ». Moi, j'ai toujours trouvé ça assez rébarbatif. On se force un peu. Quand on est petit, il faut aller embrasser la vieille tatie qui pique un peu. Voilà, je crois que tous les enfants ont fait ce genre d'expérience. Moi, j'ai jamais été très, très emballé par ce genre de pratique. Et pourtant, je me dis, mais ce petit coup de fil à une arrière-grand-mère, une grand-mère, une personne esselée, âgée, ça va te coûter si peu et ça va lui apporter tellement de joie. Alors oui, c'est le moment de décrocher son téléphone ou d'aller rendre des visites pour aussi partager la fête, la joie de vivre que nous donne Jésus, que nous donne son évangile, que l'Esprit Saint fait bouillir en nous, hein, cette effervescence de la Pentecôte qui est toujours à l'œuvre dans nos cœurs, et bien d'aller la communiquer.
Donc je vous remercie, frère Sylvain de Tocque, d'avoir été ces trois dernières semaines présent dans ce rendez-vous des Clés pour grandir, avec une parole qui encourage, qui encourage à persévérer dans sa vocation de père, dans sa vocation de mère, dans sa vocation de parent, de grand-parent. Donc ne perdons pas les clés pour aider, je dirais, nos jeunes à grandir et les parents grandissent toujours avec les enfants. Frère Sylvain de Tocque, on peut vous lire, vous retrouver avec ces deux derniers livres, La gloire des bons à rien, paru aux éditions du Cerf, et puis celui-ci où on entre dans la fête.
Oui, le tout dernier, c'est le petit frère des Bons à Rien.
Petit bébé, déjà oui. Brille les lumières de la fête, et vous nous aidez donc à revisiter aussi à travers l'Ancien comme le Nouveau Testament, tous ces personnages, à redécouvrir le sens profond de la fête. Merci.
Merci Nathalie.